nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'événement que nous célébrons aujourd'hui, qu'on ne s'y trompe pas, il y a bien davantage qu'un simple épisode de plus, émouvant, mais somme toute anecdotique, dans le spectacle magnifique qui se déroule depuis la nuit de Noël devant nos yeux, j'espère, toujours émerveillés. Le temps se fait long et les journées se suivent les unes après les autres dans ce temps de Noël, mais il ne faudrait pas en être lassé. C'est plus qu'un simple épisode. À la crèche aujourd'hui, il y a en avant plus que trois hommes et un enfant. Comme dit le réalisateur, l'épiphanie désigne en grec le dévoilement. Qu'est-ce que c'est que ce dévoilement dont il s'agit? C'est un dévoilement de taille. Pas seulement le dévoilement du Fils de Dieu venu dans la chair, ça c'est déjà le cas depuis Noël, mais le dévoilement d'une qualité particulière de ce petit homme, le fait qu'il soit Jésus roi, le Christ roi. 30 ans avant que le Seigneur n'aille par les cours et par les campagnes proclamer à tout le monde en Israël que son royaume advient en paix, donc il était déjà venu, alors que ce petit bouchon n'a pas même usage de la parole, eh bien, le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, qu'il est déjà, parce que Fils de Dieu venu dans la chair, appelle chacun, sans même usage de sa parole, je le répète, c'est magnifique, il appelle chacun à poser un choix décisif à son égard, le choix de s'enrôler ou de ne pas s'enrôler dans son armée, ou plutôt sous ses étendards, parce que les armées du Christ sont des armées dépourvues d'armes. Il s'agit donc, aujourd'hui, le moment est d'une grande gravité, il s'agit de se remémorer cet instant où le Christ a demandé que l'on se prononce pour ou contre lui. 33 et quelques années, peut-être 33 et quelques mois, sinon, avant qu'il soit exécuté parce qu'on refusait de suivre celui qui était le vrai roi. Et le moment est d'une telle gravité, eu égard aux conséquences éternelles de ce simple choix, qu'on peut comprendre la réaction des uns et des autres dans l'évangile que l'on entend. Cette réaction, elle est unanime et claire, il s'agit de l'émotion. Saint Matthieu, qui a écrit ces lignes merveilleuses, note en effet qu'entendre les mages évoquer la naissance d'un roi, un roi des Juifs, Hérode le fils, fut très ému, ou on peut traduire encore par tout troublé, et tout Jérusalem avec lui. Quant à nos chers mages, eh bien, l'évangéliste indique qu'à la simple vue de l'étoile, c'est-à-dire l'effet que ferait le visage de ce nouveau-né dans la crèche quelques heures, sinon quelques jours plus tard, enfin ils découvriraient cet enfant Jésus, ils éprouvèrent une très grande joie. Il n'est donc pas question de rester de marbre, pas plus que ne l'ont été les contemporains du Christ, devant cet appel incroyable du Christ Jésus qui nous appelle à servir sous sa bannière ou à refuser de servir. On ne peut être indifférent à Jésus. On voudrait le faire croire aujourd'hui, nos contemporains aiment à dire qu'ils sont agnostiques, c'est-à-dire ni pour ni contre, tiède. C'est ce que le Seigneur fait des tièdes, je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Ce n'est pas de moi, c'est du Seigneur Jésus dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas un livre de destruction et qui doit nous effrayer, mais au contraire, de révélation de la gloire et du royaume de Jésus. Et voici que Hérode et les siens, les mauvais et mauvais, et les mages, d'un autre côté, les bons donc, sont les uns et les autres émus, jusqu'au triste, parce que Jésus leur demande de faire ce choix et de le faire urgentement. Il y a évidemment un enseignement pour nous dans cette scène d'évangile, comme dans toutes les scènes d'évangile, que l'Église nous propose facilement, bien entendu. Alors je vous propose de nous immiscer dans cette scène merveilleuse et de nous identifier à un personnage. Alors bien entendu, je vous connais, je nous connais, spontanément, c'est évidemment dans l'image que nous nous reconnaissons. Parce qu'ils sont sympathiques, ces mages, ils ont une bonne volonté qui affleure en tout point de l'évangile, et finalement, peut-être du bon côté, peut-être du côté des mages. Voilà. D'ailleurs, nous sommes en extase devant cette crèche, tout comme eux, nous sommes arrivés avant eux d'ailleurs, parce que depuis la nuit de Noël, nous sommes en train d'adorer le Seigneur Jésus. Ils arrivent un peu en retard, les pauvres. Nous sommes de bons mages, des mages de la première heure, vous voyez ce que je veux dire. Et vous savez ce qu'ils aiment bien les ouvriers de la première heure dans la parabole de l'évangile, ça se passe pas très bien pour eux. Eh bien, nous sommes donc très fiers de pouvoir adorer le Seigneur Jésus depuis Noël, et puis, d'ailleurs, nous sommes gardes de notre courage et de notre sérieux. Nous avons signé une sorte de passage pour soutenir les prêtres en France, ce pays devenu, par la grâce de ses élus, laïque, gratuit et obligatoire. Voilà. Donc, nous sommes, c'est sûr, du côté des mâles. Évidemment, vous vous doutez que si le propos est assez caustique depuis quelques instants, j'aimerais bien que vous nous identifions également à d'autres personnes que les mâles, pour finir par eux. Nous pouvons d'abord nous identifier à Hérode. Parce que, au fond de chacun d'entre nous, règne une sorte de petit roi de lait qui a usurpé son titre, parce qu'il n'est de roi en réalité que Dieu, l'Éternel, qui a usurpé son titre et qui entend ne pas avoir de concurrent sur cette terre. Après, nous verrons bien, mais pendant cette existence, Seigneur, que je tienne les règles. Je suis le maître de ma petite personne. D'ailleurs, vous avez donné à Adam et Ève, je l'ai vu dans la Genèse, l'empire sur la création. A fortiori donc, l'empire sur soi. Nous sommes de ces petits rois de lait qui, de mauvaise foi, ne veulent pas accueillir l'enfant Jésus, ou du moins ne veulent pas lui montrer tous les domaines sur lesquels ce petit roi de lait règne. En permanence, il faut bien reconnaître, nous refusons de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, attribuant à César ce que nous sommes, ce que nous croyons être à César, c'est-à-dire la totalité de notre existence. De temps à autre, bien sûr, une fois la fenêtre, nous allons vaillamment, devant le Seigneur, nous incliner et rendre les hommages qui sont dus à sa souveraine majesté. Mais le reste du temps, c'est le petit roi de lait qui s'invente toutes sortes de ruses, qui mystifie à l'envie. Il n'y a pas qu'Hérode qui soit expert dans cet art-là, nous le sommes, mes frères. Nous cherchons en permanence, sous des dehors tout à fait religieux, à cacher notre jalousie davantage du royaume de Jésus-Christ sur toute notre personne et sur tous nos biens. Vous voyez combien Hérode est fallacieux, combien il est fou. Il prétend qu'il viendra lui aussi rendre hommage à l'enfant Jésus et se prétend donc comme un homme pieux mais déférent. Vous savez ce qu'il advient quelques jours plus tard, il commande à ses troupes bassement, par derrière, d'aller exécuter les enfants de ce lieu-là, on n'entend plus parler de cette espèce d'enfant roi qui un jour viendrait détrôner Hérode. Il y a ensuite ce bon peuple de Jérusalem, ce bon peuple, bien sûr, le terme est un peu ambivalent, ce bon peuple de Jérusalem à la tête desquels les élites juives que consulte Hérode pour savoir où doit naître ce roi des Juifs. Ces élites-là, je crois qu'elles sont encore pires qu'Hérode. Parce qu'Hérode, vous le savez peut-être, est une dynastie qui est fraîchement venue au judaïsme. Il n'a donc pas les siècles derrière lui et la culture de l'Ancien Testament, la culture des prophéties, la connaissance en un mot de la volonté divine qu'ont les Juifs. Quant aux élites juives, elles passent leur temps à discuter des Écritures. Elles connaissent par cœur, parce que c'est leur travail, les prophéties concernant l'enfant Jésus. Et voilà, au paradoxe, que lorsqu'advient ce Messie tant attendu, personne ne bouge. C'est tout de même surréaliste, je ne sais pas si vous frémissez en entendant les lignes de l'évangile de saint Matthieu, j'espère que oui, en dépit de la torpeur matinale, c'est quand même surprenant que cette race-là, qui a été mise à part depuis des siècles, à qui Dieu a fait voir sa gloire, qu'il a choyé comme mieux encore qu'une mère ne choie son enfant, voilà que ce peuple-là, qui n'a qu'une seule vocation, accueillir le Messie, lorsqu'on lui apprend que le Messie est né, ne se donne même pas la peine d'envoyer sur place des émissaires pour vérifier si c'est bien lui ou pas. On reste tranquillement dans les palais de Jérusalem à continuer à arroser les prophéties sans fin et on arrose toujours aujourd'hui, alors que le temps est tombé, d'un rabbinisme qui n'a rien compris parce qu'il n'a pas voulu par paresse ou par orgueil ployer le genou devant le vrai Messie, tel qu'il advient selon les conceptions de Dieu sous les traits de l'enfant. Et non pas tel que les attendaient les Juifs, c'est-à-dire avec les traits d'un nouveau roi David ou d'un Salomon en toute sa vie. Vous voyez, nous sommes de cette population-là, car mes frères, baptisés depuis l'enfance pour la quasi-totalité d'entre nous, nous savons. Nous savons, mais nous ne pouvons pas. Nous savons, mais nous n'acceptons pas d'aller quotidiennement rendre hommage au roi des rois, humblement, devant cet enfant roi, accepter de tout remettre entre ses mains. Nous sommes donc, nous pouvons nous reconnaître derrière les traits d'Hérode, nous pouvons nous reconnaître derrière les traits de cette élite juive, de cette populace de Jérusalem qui ne se donne même pas la peine de se déranger pour aller à Bethléem. Ceux d'entre vous qui sont déjà allés en Terre Sainte savent la distance entre Jérusalem et Bethléem. Cette distance est ridicule. Autrement dit, ils sont encore plus fautifs de ne pas avoir fait le pas. Et puis, enfin, j'espère, il faut bien se consoler un peu, nous avons quelque chose d'image. Et nous devrions de plus en plus devenir cette image, celui qui les caractérise, les fameuses espèces, ce qui la caractérise, c'est leur très grande simplicité. La simplicité d'un enfant qui s'émerveille de tout, qui, parce qu'il voit dans les astres plus que les astres, mais les dessins divins, est capable de quitter sa terre natale et son royaume, quelque temps, si on croit que ce sont des rois, à lire les apocryphes. Mathieu n'en dit rien, ce sont de simples mages, peut-être sont-ils rois, ils ont donc laissé à leur premier ministre, que sais-je, le soin des affaires de leur royaume pour un temps, et ont transhumé jusqu'à cette petite terre inconnue de la grande Perse ou de la Chine, qui sont autrement plus glorieux au plan humain que cette pauvre petite terre de Terre Sainte, justement, ils se rendent sur place, parce que, assoiffés qu'ils sont de la vérité, par la vérité, ils ont la simplicité de croire que cette étoile ne leur manque pas. Simplicité encore lorsqu'ils entrent chez Hérode. Il faut être sacrément culotté pour, devant le roi des Juifs régnants, dire que l'on vient se prosterner devant un roi qui vient de naître. Là encore, le récit de saint Matthieu est très succinct, mais les choses sont quand même assez révoltantes. Ils manquent pas d'air, les orientaux. Et voilà qu'ils viennent, naïvement, demander à Hérode où est ce jeune roi que l'on vienne s'incliner devant lui. Peut-être se sont-ils inclinés devant Hérode, mais peut-être pas. Et voilà qu'ensuite, revoyant cette étoile qui nous avait quittés pour un temps, ils ont la simplicité, la candeur d'exulter tout simplement. Ils suivent cette étoile, ils se retrouvent dans la crèche. Voilà donc le roi qu'on leur avait promis, eux que l'on imagine drapés dans les plus beaux vêtements que même les contes des mille et une nuits ne sauraient honorer par leur détail orientaux justement. Et voilà qu'ils se prosternent de tout leur nom devant ce petit bouchou couché dans une mangeoire entre un bœuf, un âne peut-être. Deux parents sont tout à fait communs. Voyez donc la simplicité de ces âges. Et, cerise sur le gâteau, voyez la magnanimité de leur service. Ils arrivent devant ce petit enfant et offrent de l'or, de l'encens et de la mine, ce qu'ils ont de meilleur, autrement dit de plus précieux. Vous me direz, ces hommes-là sont peut-être de grands astrologues, de très grands savants, mais ils n'ont pas vraiment le sens pratique. Car pour une mère et son enfant qui vit dans une pauvre crèche, il faut avouer que ça n'est pas un grand réconfort et d'une grande utilité que d'avoir de l'or, de l'encens et de la mine. Et là, mes frères, je conclue en vous disant que nous devons nous aussi accepter que notre prière ne soit pas directement utile, que notre liturgie même, la liturgie que nous essayons d'honorer, notre rite formidable qui est le nôtre, eh bien, que notre liturgie ne soit pas directement efficace, n'est pas vocation premièrement à rendre service aux plus démunis ou à nous servir nous-mêmes. C'est la gratuité des mages qui doit animer le croix dans le cœur du croyant. Nous devons être persuadés que le Seigneur Jésus, parce qu'il n'a éconduit les mages dans la crèche, la Vierge Marie, parce qu'elle a, j'imagine, raillé ces jours-là, ne nous raillera ou ne les éconduira si, aujourd'hui, nous acceptons d'offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur. Mais de meilleur de notre vie, ou de meilleur de notre argent, ou de meilleur de cette liturgie que nous déployons ici, toutes choses qui n'ont pas d'utilité, encore une fois, qui sont là à se consumer tranquillement, quotidiennement, pour la gloire de Dieu. Nous devons accepter de perdre du temps pour Dieu. Alors ce temps-là, évidemment, c'est un placement. Et nos bons orientaux sont quand même assez malins, parce qu'ils savent qu'en offrant de l'or, de l'encens et de la mire à un petit enfant qui en même temps est roi, c'est placé pour l'avenir. Bien, c'est un peu dans cette perspective-là qu'il est légitime, nous aussi, que nous considérons les choses. Aujourd'hui, en perdant du temps dans cette église, à écouter un sermon qui n'en finit plus, et à honorer Dieu par de pauvres petits éléments infirmes pour dire toute sa grandeur et toute notre reconnaissance, nous plaçons les frères pour l'avenir. Père, Fils et Saint-Esprit.